Jusqu'au 31 mai avec Audi Now, repartez sans attendre au volant de l'Audi dont vous avez toujours rêvé. Profitez notamment de l'Audi A1 Sportback à partir de 290€ par mois avec apport. Rendez-vous chez votre partenaire Audi.
Offre location longue durée valable du 21 au 31 mai 2024 pour une Audi A1 Sportback 25 TFSI Advanced. Premier loyer de 3 000€ suivi de 36 loyers de 290€ réservé aux particuliers sur 30 000 km dans le réseau participant sur une sélection de modèles disponibles en stock. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr. Now signifie maintenant.
Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
BFM Business présente Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie. Guillaume Paul, Good Evening Business.
Allez, 19h, on est reparti, la deuxième heure de Good Evening Business en direct jusqu'à 20h dans l'actualité ce soir. Bah, c'est un petit peu la douche froide parce que Bruno Le Maire nous l'a confirmé tout à l'heure. Oui, nos déficits publics vont bien être plus élevés que prévu à la fin de cette année. Mais en plus, pour atteindre ce résultat moins reluisant, il va falloir faire encore des économies, 10 milliards de plus que ce qui avait déjà été annoncé par Bruno Le Maire en février. On va voir ça avec Thomas Asportas dans un instant. Sinon, on va reparler bien sûr ce soir de cette négociation sur l'emploi des seniors qui a capoté la nuit dernière à Paris. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui peut se passer désormais? On verra ça avec Caroline Morisseau. Et puis, on parlera bien sûr de cette petite phrase du ministre de la fonction publique, Stanislas Guérini, qui veut, je cite, « lever le tabou du licenciement ». Dans la fonction publique. Petite phrase qui suscite énormément de commentaires. On parle de tout ça, entre autres, avec nos experts qui reviennent bien sûr à 19h15 jusqu'à 20h. Qui sera avec nous ce soir? Eh bien, on sera avec l'ancien ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin, avec Jean-Marc Silvestre d'Atlantico et avec l'économiste de l'OFCE, Henri Stiadignac. Voilà le programme. Merci d'être avec nous jusqu'à 20h en direct. Bonne soirée.
Good Evening Business, le journal.
Donc, nous voilà fixés sur la nouvelle trajectoire budgétaire de la France d'ici la fin du quinquennat, puisque Bruno Le Maire a revu sa copie. Bonsoir Thomas. Donc, d'ici à la fin de l'année, les déficits devraient être à 4,4%. C'était l'objectif, on sera à 5,1%. Et pour en plus y arriver, il va falloir trouver 10 milliards d'euros d'économies supplémentaires. C'est ça Thomas, hein ?
Exactement, qui s'ajoute aux 10 milliards qui ont déjà été annoncés en février. Donc, ça fait 20 milliards au total pour tenir un objectif de déficit à peine au-dessus des 5% de déficit pour cette année, après 5,5% l'année dernière. Donc c'est quand même pas très glorieux tout ça. Ça fera de la France le pays qui a le plus lourd déficit des grands pays de la zone euro, juste derrière l'Italie. Et comme si ça ne suffisait pas, il va falloir faire vraiment de très gros efforts d'économie pour tenir ces objectifs plus glorieux. Vous l'avez dit, 10 milliards déjà annoncés en février. 10 milliards supplémentaires, c'est ce qu'on a appris aujourd'hui. Donc en fait, on était qu'à la mi-temps en février. Il va falloir faire deux fois plus d'efforts. Dans le détail, Bercy a expliqué comment allaient être composés ces 10 milliards d'économies supplémentaires à aller chercher. On a 5 milliards dans les administrations de l'État. Le ministère a donné des pistes, il a parlé de l'immobilier de l'État, il a reparlé du compte personnel de formation ou encore des opérateurs de l'État. On a aussi 2,5 milliards qui vont être cherchés dans les dépenses des collectivités locales. Il leur a donné un objectif, c'est de plafonner la hausse des dépenses des collectivités à 0,5 points en dessous de l'inflation. Et enfin, 2,5 milliards via la taxation des rentes, ça c'est le sujet qui monte. Deux pistes sont déjà sur la table, au moins 1 milliard à aller chercher auprès des énergéticiens et la taxation des rachats d'actions.
Bon, donc on comprend que ça va être très tendu pour l'an cette année. Est-ce qu'à partir de l'an prochain, ça va commencer à se détendre un petit peu quand même?
Alors, dans ce nouveau tableau, dans ces nouvelles hypothèses, ce ne sont que des hypothèses, on a un déficit qui baisserait à 4,1 l'an prochain. Donc un point de déficit en moins en un an, c'est très ambitieux pour dire le moins. On serait ensuite à 3,6 en 2026 et enfin 2,9 en 2027. Donc vous voyez que ça descend quand même très vite tous les ans. Il va falloir réussir de grosses performances budgétaires pour tenir cette trajectoire. Et pour y parvenir, le gouvernement compte beaucoup sur le retour de la croissance après le creux de l'année dernière et de cette année. Bercy dit voir déjà des premiers signes de reprise depuis le début de l'année. On nous dit que le crédit immobilier est en train de repartir. La chute de l'inflation ou encore le moral des ménages et le climat des affaires qui se redressent, tout ça devrait entraîner la reprise de la consommation des ménages et de l'investissement des entreprises. Et donc, fait dire à Bercy que l'activité va repartir, que la croissance va accélérer à 1,4 l'année prochaine, 1,7 en 2026, 1,8 en 2027. C'est le nouveau scénario macroéconomique que Bercy va vendre au marché, aux agences de notation et à la Commission européenne dans les prochaines semaines.
Une agence de notation qui parle dans une dizaine de jours pour les premières.
Exactement.
Effectivement, ça arrive très très vite. Merci beaucoup Thomas. Thomas Asportas avec nous sur BFM Business. Dans l'actualité de ce mercredi, ça devait arriver à quelques semaines du début des Jeux Olympiques. La CGT a confirmé qu'elle avait déposé des préavis de grève dans la fonction publique. Ils vont s'étirer de lundi prochain, 15 avril, au 15 septembre prochain, jusqu'à la fin des Jeux Paralympiques. La CGT dégaine car elle estime qu'il n'y a pas assez de mesures compensatoires pour les agents qui seront mobilisés cet été. Peut-être a-t-elle été aussi un petit peu irritée par les propos du ministre de la fonction publique, Stanislas Guérini, qui a déclaré ce matin qu'il voulait, je cite, « lever le tabou du licenciement dans la fonction publique ». Petite phrase qui a fait beaucoup réagir. On en reparlera bien sûr longuement ce soir avec nos experts. Et puis l'autre gros sujet dont on doit reparler ce soir, c'est ce qui s'est passé la nuit dernière. Il n'y a pas eu d'accord entre syndicats et patronats sur le dossier de l'emploi des seniors. On s'est quitté un peu avant 3h du matin. Écoutez ce que disait ce matin le patron du MEDEF, Patrick Martin. Pour lui, il n'y avait clairement pas la place pour un accord.
Il n'a pas abouti. Pourquoi ? Parce que, en particulier, la CFDT et FO, avec qui nous avons une bonne relation, je tiens à le dire, on n'est pas du tout dans un pugilat, ont, dans la dernière ligne droite, beaucoup insisté pour que soient améliorés ou aménagés les régimes des retraites progressives. Il se trouve que la lettre de cadrage que nous avait imposé le gouvernement interdisait toute dépense supplémentaire. Or, ce dispositif, si on avait donné suite aux demandes donc de ces deux organisation syndicale, ce dispositif aurait généré des surcoûts. Donc c'était inconcevable. Donc voilà, cette négociation n'aboutira pas.
Voilà, Patrick Martin ce matin devant le Sénat. Bonsoir Caroline Morisseau. Première question, qu'est-ce qui a bloqué pour qu'on aille dans le...
Tout a bloqué en fait. Les syndicats ont considéré que le texte était trop déséquilibré pour parvenir à un accord.
Pour parvenir à un accord, qu'est-ce qui peut se passer maintenant ?
Oui, la conséquence, c'est qu'en fait, cet échec de la négociation sur les seniors risque d'avoir une conséquence sur un autre accord, celui sur l'assurance chômage, parce que les deux sujets sont directement liés. En fait, pour bien comprendre, il faut remonter à novembre dernier. À ce moment-là, les partenaires sociaux avaient conclu un accord sur les nouvelles règles d'assurance chômage, et les syndicats, dans cet accord, se sont engagés à décaler 2 ans toutes les bornes d'âge liées à l'indemnisation des seniors, avec à la clé 440 millions d'euros d'économies. Mais à une condition, d'obtenir des contreparties sur l'emploi des seniors. Donc la mesure a été mise entre parenthèses jusqu'à ce que la négociation sur les seniors se passe. Derrière, le gouvernement a du coup décidé de ne pas valider l'accord assurance chômage tant que les économies promises n'étaient pas au rendez-vous. Problème, faute d'accord sur les seniors, les syndicats vont très probablement refuser de décaler de 2 ans tous les avantages liés aux seniors. Alors rien n'a encore été officialisé. La CFTC, FO et la CFDT qui étaient signataires de cet accord inédit doivent réunir leurs instances pour décider de la suite des événements. Mais si c'est le cas, s'ils refusent de valider cette mesure sur les seniors, si les économies ne sont pas au rendez-vous, le gouvernement va lui aussi très probablement refuser de valider l'accord sur l'assurance chômage qui lui permettra de reprendre la main encore plus vite que prévu et d'adresser très rapidement une lettre de cadrage et de repartir de zéro avec une nouvelle réforme de l'assurance chômage.
Avec nous sur BFM Business, mauvaise nouvelle pour Vinci. D'après l'agence France-Presse, la justice a rejeté sa demande d'indemnisation après l'abandon, vous savez, du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Le groupe réclamait 1,6 milliard à l'État, mais toujours d'après ces infos, la justice ouvre quand même la voie à une indemnisation de résiliation dont le montant serait fixé ultérieurement. Et puis la Chine, on s'en doutait, n'a pas fraîchement apprécié la décision de Bruxelles, on en parlait hier, d'ouvrir une enquête contre les géants chinois de l'éolien. Le monde s'inquiète des tendances protectionnistes croissantes de l'Union européenne. Voilà ce qu'a déclaré réellement un porte-parole de la diplomatie chinoise aujourd'hui. Et puis alors, mais vous pourrez l'écouter plus en longueur tout à l'heure dans Tech & Co après 20h, Yann Lequin, vous savez, le célèbre chef de l'IA chez Meta, était à Paris aujourd'hui et il nous a parlé quelques minutes de ce modèle d'intelligence artificielle que Meta va bientôt sortir et qui est susceptible de concurrencer ChatGPT-5. Vous écoutez ça tout à l'heure. Il en a aussi profité pour le dire aux Européens. Voter une loi comme vous l'avez fait le mois dernier, le fameux IA Act, c'est clairement se tirer une balle dans le pied. Écoutez.
La grosse question qui, à mon avis, mérite un débat important, c'est est-ce qu'il faut réglementer la recherche et le développement ? Mon opinion personnelle, qui n'est pas l'opinion nécessairement officielle de Meta, c'est que l'Europe est probablement allée un petit peu trop loin, un peu trop vite, dans la réglementation de la recherche et du développement, en disant... Il y a des modèles d'IA de très grande taille qui seront peut-être intrinsèquement dangereuses. Je n'y crois pas du tout, moi, personnellement. Et je pense que ces réglementations, en fait, vont chasser certaines entreprises de l'Europe, quoi. Vont limiter le déploiement de certains produits aussi en Europe.
Voilà, Yann Lequin, le chef de l'IA chez Meta, Intaou, pour écouter plus en longueur dans Tech & Co tout à l'heure sur BFM Business, 19h09. Nous retournons sur les marchés.
Votre rendez-vous avec AG2R La Mondiale. Épargne, retraite, santé, prévoyance. Avec AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain.
Les marchés, bonsoir Étienne Brac.
Bonsoir.
On regarde la clôture à la Bourse de Paris ce soir, le CAC 40 qui n'a pas fait grand-chose, on est quasiment stable à 8045 points. Et à Wall Street, comment ça se passe Étienne?
C'est du rouge bien plus vif, hein, puisque vous avez même un Dow Jones qui pourrait vivre sa pire séance en un an, moins 1,5%, moins 1,3% pour le S&P quand le Nasdaq cède 1,2%, avec des chiffres d'inflation qui ont été publiés tout à l'heure aux États-Unis. Hein. C'est vraiment la donnée de la semaine avant la BCE demain et l'inflation aux États-Unis. Eh ben, elle décélère pas, elle continue de stagner et elle ressort au-dessus des attentes avec une inflation qui ressort à 3,5% le mois dernier sur un an et puis surtout hors énergie et hors alimentation, elle ressort à 3,8% alors que le consensus s'attendait à 3,7%. Donc par rapport à cela, vous avez un marché qui ne vise quasiment pas, allez, 77% des analystes ne voient plus de baisse de taux au mois de juin, hein, donc sachant qu'il y a encore quelques semaines, les marchés pariaient à grande majorité sur une baisse de taux au mois de juin, donc forcément ça s'ajuste aujourd'hui, l'obligataire qui repart de l'avant, les refuges qui sont à nouveau recherchés. Alors néanmoins, vous avez Nvidia qui prend 1,5% aujourd'hui, avec notamment TSMC qui a publié ses résultats largement au-dessus des attentes, hein. TSMC qui fabrique les puces de Nvidia, une demande qui est toujours très forte dans l'intelligence artificielle. Et puis une autre valeur qui fait l'actualité aujourd'hui aux États-Unis, c'est Delta Airlines, qui est l'une des plus grosses compagnies aériennes au monde et puis surtout aux États-Unis, demande qui est toujours très forte, les hausses de prix ça passe, deuxième trimestre ils sont confiants. Donc par rapport à cela, vous avez toutes les compagnies aériennes en Europe mais aussi aux États-Unis qui surperforment la tendance qui est négative, donc avec trois indices qui perdent entre 1,2 et 1,5% aujourd'hui.
Et ben voilà pour la tendance à la mi-séance dans le rouge clairement du côté de Wall Street. Merci beaucoup Étienne. 19h12, on revient dans un instant avec nos experts, on a énormément de choses à voir jusqu'à 20h. Bruno Le Maire qui revoit sa copie, il va falloir trouver 10 milliards d'euros d'économies en plus pour cette année. L'emploi des seniors, pourquoi est-ce que ça a capoté? Qu'est-ce qui peut se passer? Et puis évidemment, la petite phrase de Stanislas Guérini qui veut lever le tabou du licenciement dans la fonction publique. Ça a suscité énormément de commentaires. Et bien, il va y en avoir ici sur ce plateau d'ici 20h, à n'en point douter. A tout de suite.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, 19h15, ils sont là nos experts jusqu'à 20h pour refaire l'actu. Elle est pléthorique aujourd'hui. Henri Stardignac est avec nous. Bonsoir Henri.
Bonsoir.
Bienvenue économiste à l'OFCE, membre des économistes atterrés. Jean-Marc Sylvestre est avec nous. Jean-Marc, bonsoir. Éditorialiste Atlantico, Michel Sapin est avec nous. Bonsoir monsieur le ministre, ancien ministre de l'économie et des finances. Ancien ministre du Travail, ancien ministre de la fonction publique. Je dis ça parce qu'on va invoquer plusieurs casquettes aujourd'hui, tant l'activité est pléthorique. Alors douche froide, est-ce que vous achetez le terme de douche froide? Parce que Bruno Le Maire nous l'a dit tout à l'heure, nos déficits devaient être à 4,4% du PIB à la fin de cette année, ça sera 5,1%. Et en plus, pour tenir cet objectif moins reluisant, il va falloir faire 10 milliards d'euros d'économies en plus des 10 milliards déjà annoncés par Bruno Le Maire mi-février. Écoutez ce que disait Bruno Retailleau ce matin pour Les Républicains, parce que le chiffre fuitait déjà ce matin, écoutez.
Les deux quinquennats d'Emmanuel Macron se seront soldés par 1000 milliards de dettes en plus. Aujourd'hui, le stock de la dette que supportent les Français, parce qu'au bout du compte, c'est eux qui en sont responsables sur leurs épaules, si j'ose dire, et non pas dans leurs décisions, ça ne dépend pas d'eux, évidemment, c'est des mauvais gouvernements qui ont ajouté la dépense publique à la dépense publique. Mais sur 3 000 milliards, 1000 milliards depuis 2017 pour Emmanuel Macron. Ce qui fait de la France le cancre de l'Europe, avec l'affaiblissement de la voix de la France en Europe. C'est important, puisqu'on est à quelques encablures des élections européennes. Mais...
Bon, après, vous allez vous dire, le manque de sérieux budgétaire, c'est un éternel recommencement, c'est du déjà vu en France. Michel Sapin, comment est-ce que vous regardez ces chiffres, vous?
Il y a un manque de sérieux, et manque de sérieux, si je puis me permettre. Et juste comme ça, si vous regardez la courbe de l'évolution des déficits, vous verrez que les moments où c'est le plus bas, c'est la plupart du temps quand la gauche est au pouvoir. Alors je dis ça, tout le monde va dire, tiens, c'est étrange, mais pas du tout. Bon, c'est comme ça.
Sous François Hollande, on n'a pas tenu le calendrier non plus, hein, tout à fait.
Sous François Hollande, la dette n'a pas cessé de diminuer, depuis le début jusqu'à la fin. Parfois, on a même critiqué, je vois revenir ce thème-là, sur le fait qu'on l'a fait diminuer trop rapidement, en particulier au début.
Ouais.
Donc la critique arrive, hein, on la voit, mais on ne peut pas dire qu'on n'a pas fait diminuer. Et le plus bas a été en 2017. C'était la conséquence, évidemment, sur une année complète de ce que nous étions. Je ne dis pas ça du tout. Après, la question du sérieux budgétaire est une chose. Tout le monde doit être sérieux, qu'on soit de gauche ou qu'on soit de droite. Mais la manière et le pilotage en est une autre. Au fond, aujourd'hui, ce qui m'étonne, hein, c'est qu'on dise « on découvre le problème ». Pas vrai du tout. Ce problème-là, il n'est pas découvert parce qu'il y a eu un chiffre qui est sorti, parce qu'il y a eu un rapport de la Cour des comptes il y a quelques... Non, on savait très bien, on le disait d'ailleurs même ici, l'année dernière, au début de l'année dernière, que le « quoi qu'il en coûte » avait duré beaucoup trop longtemps par rapport à l'utilité que ça pouvait avoir pour lutter contre les effets de la crise économique due à l'arrêt de l'économie avec le Covid. Mais après, c'est devenu, j'ai souvent dit, un art de dépenser. Et c'est la première fois de ma vie que j'ai vu un ministre des Finances, le même, qui aujourd'hui fait le grand doctrinaire, qui se félicitait à la fin de l'année d'avoir dépensé plus que ce qu'il avait prévu. Ce qui montrait que le dispositif du « quoi qu'il en coûte » avait bien fonctionné. Donc voilà, il y a eu quand même des erreurs lourdes qui ont été commises au cours de ces dernières années.
Et plus dur est le réveil. 10 milliards d'euros à aller trouver, en plus des 10 milliards d'économies que nous avait déjà annoncé Bruno Le Maire le 19 février dernier, Henri Sterdyniak.
Oui, c'est...
Voilà la facture.
C'est un peu beaucoup. On se demande quand même si charge un peu trop la barque. Il y aura quand même automatiquement une baisse des dépenses liées au bouclier tarifaire. Ouais. On peut espérer quand même remonter des recettes après quand même l'accident qu'on a connu en fin d'année 2023. Maintenant, effectivement, on se trouve devant un gouvernement, enfin une série de gouvernements Macron qui ont eu des pratiques un peu bizarres. Par exemple, au total, si on fait le total, ils se vantent d'avoir baissé les impôts de 76 milliards, ce qui est quand même tout à fait énorme. Et puis, il y a eu des dépenses tout à fait inconsidérées. Les 20 milliards de plus qu'on consacre à l'apprentissage, qui n'ont pas été pensés, tout ça...
Mal aiguillé.
Tout ça fait que, naturellement... il faut quand même donner un petit coup de frein.
Ce qui inquiète quand même, c'est la façon dont on va aller chercher ces 10 milliards supplémentaires. Parce qu'on nous donne des pistes, on dit qu'il y aura 5 milliards dans les dépenses des administrations de l'État. On en reparle de l'immobilier de l'État, du compte personnel de formation. 2 milliards et demi dans les dépenses des collectivités locales et 2 milliards et demi via la taxation des rentes. On va encore aller gratter comme ça des milliards en faisant les fonds de tiroir sans véritable méthode d'ensemble.
On va être au cœur du je crois qu'il y a deux choses que sur lesquelles je voudrais attirer votre attention. Il y a un débat sur la dette. Il y a un débat sur le déficit budgétaire. Et il y a évidemment un débat sur la façon dont on peut réduire le déficit budgétaire. Alors quand j'entends aujourd'hui dire oui, on a trop dépensé, oui, on n'a pas pris assez suffisamment d'impôts, j'ai pas beaucoup de solutions derrière. Michel Sapin en aura peut-être plus tard, mais pour l'instant, je ne vois pas comment dans la classe politique, dans la majorité comme dans l'opposition, on va trouver à faire des économies budgétaires. D'où, si vous voulez, le coup de colère du ministre de l'économie qui réclame un peu d'effort du côté du Parlement. Je dois dire qu'on lui tombe dessus aujourd'hui, on lui tombait pas dessus quand il fallait signer des chèques pour les Gilets jaunes, on lui tombait pas dessus quand il fallait signer des chèques quand les banlieues étaient en train de saccager le centre de Paris, on lui a pas tiré dessus lorsque on a fait le confinement et le Covid, et c'est maintenant qu'on a un problème de financement, parce qu'il y a une deuxième psychodrame qui est en train de se créer, qui est le psychodrame sur la dette. On s'aperçoit qu'on a accumulé une dette a priori importante, puisqu'elle représente aujourd'hui 112 ou 113 ou 110 ou 112% du PIB, plus de 3000 milliards. On n'a jamais eu de difficulté à lever. Aucun marché financier n'a mis la moindre résistance, la moindre prime de risque, le moindre spread sur le coût de cette dette. Et c'est encore aujourd'hui un cas possible. Donc aujourd'hui, on a une dette qui anime la classe politique. Monsieur Retailleau a fait des tombereaux ce matin
à la
radio. Tout le monde en fait en disant nous sommes au bord de la faillite, etc., etc. Moi, je ne crois pas que nous soyons au bord de la faillite. Alors, en revanche, nous sommes sans doute au bord, dans l'antichambre des agences de notation qui vont nous dégrader compte tenu de la nouvelle...
Vous avez une info en ce sens que vous nous dites qu'on va se dégrader dans 10 jours
parce qu'à partir du moment où on a réactualisé les prévisions budgétaires pour 2024-2025, les agences de notation. Mais les agences de notation, elles ne sont pas tellement écoutées par les marchés.
De moins en moins, voilà. Moins qu'avant. Hein,
et y a aucun, le problème, et c'est qu'il n'y a aucun risque de faillite. Les agences de notation peuvent dire ce qu'elles veulent. Au niveau risque de faillite, c'est zéro.
Je voudrais terminer par une question que je voudrais poser au ministre de l'économie et des finances. Le ministre de l'économie et des finances, moi je le vis un peu comme un directeur financier dans une grande entreprise qui fait les comptes, qui les aligne et qui regarde si ça va. Et il applique la politique que le président lui a demandé d'appliquer. Vrai ou faux, monsieur le ministre ?
Alors, Michel Sapin, répondez. Ce avait
été... Alors, d'abord, deux très courtes remarques de méthode. Les raisonnements en milliards, comme le fait ce matin Retailleau, c'est une manière de tromper les gens.
C'est nul.
C'est pas la bonne manière. Mmh. Pourquoi ? Parce que tous les ans, vous avez de l'inflation, vous avez des faux milliards, si je puis dire, qui s'accumulent. Le seul critère qui est important, c'est le pourcentage par rapport à la richesse de la France. C'est le seul.
110.
Ce qui est considérable.
Bon. Mais non.
Non, mais juste, c'est considérable.
Mais c'est moins que l'Allemagne, c'est vrai, mais c'est la moyenne européenne.
Oh non,
vous avez vu la Grèce ?
D'accord. Allons-y et on vivra les mêmes difficultés
qu'avec la Grèce. Vous avez vu le Japon ?
Le Japon,
250%.
Mais il vit depuis des dizaines d'années.
Il vit sur lui-même. Michel,
vous avez vu les États-Unis ?
Vous regardez la France et vous regardez les pays comparables à la France, nous sommes les plus mauvais. Alors, deuxième remarque de méthode. Parce que j'aime pas la démagogie. On accumule des milliards et on dit la France va tomber en faillite. Mais
j'ai pas dit ça.
On écoute. Non, mais c'est pas vous. Mais c'est ce que j'entendais
dire sur Retailleau. Retailleau.
Mais y a une conséquence, même sans dégradation de quoi que ce soit, c'est qu'aujourd'hui, payer la dette, ça coûte de plus en plus cher. Moi, j'ai connu une période, c'était une facilité, où à la fin de l'année, on avait économisé en coût de la dette. Parce que les taux d'intérêt avaient baissé.
Oui.
Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Et le plus grave problème auquel est confronté ce gouvernement et le ministre des Finances, c'est que tous les ans, il y a 10 milliards de plus que personne ne voit. C'est ces 10 milliards
les intérêts,
qui n'existent pas, qui sont le service de la dette, les intérêts, etc. C'est ça la grande difficulté et qui rend absolument nécessaire.
Heureusement,
l'essentiel de la dette, pardonnez-moi,
Heureusement, actuellement, le poids de la charge de la dette dans le PIB est extrêmement faible, 1,6%, donc c'est un niveau très faible, et par ailleurs, il faut considérer que la dette est automatiquement réduite par la croissance, comme on a eu une croissance en valeur de 6,4% en 2023. On paye 1,8% sur une dette quand on a une croissance en valeur de 6,4%. Donc la dette ne nous coûte rien. Et c'est ça le problème. En 2023, la dette nous a rien coûté. Et normalement, même dans les prévisions jusqu'à 2027, elle ne nous coûtera rien.
Mais dans le budget, Michel, vous mettez des milliards en plus.
C'est ce que vous croyez parce que vous...
Ah bah c'est ce que je crois.
Qu'est-ce
que fait le ministre des Finances ?
C'est ce que vous croyez parce que vous étiez ministre des Finances, mais moi qui n'ai jamais été ministre des Finances, mais qui a été économiste, je considère qu'il faut corriger...
Il n'y a pas de problème que l'argent est magique et que tout ça ne coûte rien.
Il faut corriger les intérêts du taux de croissance.
Bon, est-ce que vous êtes... Quand on regarde un petit peu la situation en Europe, les Allemands qui, à quelques jours de la deadline budgétaire, ont dû trouver en catastrophe 60 milliards d'euros pour boucler le budget 2024. Quand vous voyez les Italiens qui n'ont pas envoyé de programme de stabilité, ils n'ont toujours pas donné le chiffre définitif de leur déficit de l'an dernier. Quand vous voyez l'Espagne qui n'a pas de budget, qui a dû reconduire en 2024 le budget 2023 qui est appliqué au jour le jour par le gouvernement finalement de Pedro Sanchez. Est-ce qu'on a tort de s'inquiéter à ce point du côté de la France finalement ? Fondamentalement.
Moi je ne suis pas de ceux qui crient tout d'un coup à la catastrophe.
Non.
Je pense que ce serait une erreur.
Quand vous entendez Ciotti qui dit qu'on emprunte le chemin de la Grèce...
Ce que je n'aime pas, c'est ceux qui se retournent d'un seul coup en l'espace de 6 mois, en passant de chantre de la dépense à aujourd'hui, parfois même de manière outrancière, en chantre de l'économie. Et là aussi, problème de méthode, et que les ministres des Finances connaissent bien, le coût des 10 milliards qui tombent en début d'année, comme ça, rabotage, ça n'est jamais fait. On ne va jamais au bout de ces 10 milliards. C'est des faux 10 milliards d'économies parce qu'en cours d'année, les administrations ont toutes les bonnes raisons pour récupérer plus milliards.
Il y a une grande partie de ces 10 milliards qui sont factices parce qu'on prétend vendre des immeubles, c'est pas dans le déficit. On dit à un certain nombre d'administrations ou d'ODAC, limitez votre trésorerie, mais ça n'a rien à voir avec les dépenses et la trésorerie. Donc des 10 milliards en question, il y en a peut-être 5 seulement qui sont vraiment du déficit.
Jean-Marc,
je suis d'accord avec vous, Michel Sapin. Reconnaissez quand même qu'il y a, et ça c'est nouveau, une divergence de stratégie
en matière de couverture de ce déficit au sein même de l'exécutif. Hein, on a quand même la nette impression que l'équipe de Bercy s'est aperçue, peut-être un peu tard, qu'il lui fallait trouver des économies à faire pour pouvoir passer justement les agences, Bruxelles, etc. Et parallèlement, l'Élysée et Matignon se sont aperçus qu'ils ne pouvaient pas politiquement supporter les conséquences d'un rabotage ou d'un plan d'austérité que vous craignez.
Je ne suis pas forcément en désaccord, mais est-ce Michel que je peux me permettre de garder ça pour mon coup de gueule?
Ah ben bien sûr, mais vous en parlerons dans un instant. Oui. Non, moi je voulais avoir
sur ma question. Est-ce que c'est un directeur financier qui applique la politique du président ou est-ce que c'est
évidemment dans un système français quand il y a une majorité qui est celle du président, c'est pas le président, il a aucun pouvoir. C'est le président qui va orienter et décider. Donc c'est d'ailleurs un peu pourquoi je trouve assez désagréable la situation d'un président qui va faire des reproches à quelqu'un d'autre alors que c'est lui qui est le seul responsable évidemment.
Une minute
de la situation
parce que parmi les autres chiffres que nous a donné Bruno Le Maire, il y a les prévisions de croissance. Donc Bruno Le Maire nous dit on fera 1% de croissance cette année. On fera 1,4% de croissance l'an prochain. On fera 1,7 en 2026 et on fera 1,8 en 2027. Mais à une époque où les prévisions deviennent de plus en plus aléatoires, comment est-ce qu'on peut s'avancer à
donner toujours comme ça.
Moi, je le. Quand vous regardez le passé, c'est toujours comme ça. On fait toujours une prévision sur laquelle, dans 3-4 ans, on va avoir une forte croissance qui va compenser la faiblesse de la croissance que nous avons aujourd'hui. Et par ailleurs, il y a également, de manière symétrique, on va faire les efforts dans deux à quatre ans qu'on n'a pas fait cette année. C'est une tradition.
C'est parfaitement vrai. Ouais. Est-ce que vous savez comment les statisticiens appellent ça? Le cumul des courbes des annonces de croissance. Ils appellent ça la crête des Iroquois. Parce que ça vous fait une sorte de crête, mais qui sont toujours faux. Donc, quand vous voulez rétablir vos comptes et afficher que vous les rétablissez, c'est le sujet d'aujourd'hui. Affiché auprès des agences, mais surtout auprès de Bruxelles aujourd'hui, vous faites toujours une croissance qui va monter. Et toujours des économies qui vont être plus importantes demain, ça vous avez parfaitement raison.
Donc vous avez fait des trajectoires sur plusieurs années avec des prévisions qui paraissaient un petit peu...
Mais vous savez ce que disaient, les prévisions, c'est quand même assez difficile à faire.
Voilà. Disons que ce sont des projections. Des prévisions faites par des économistes. Et l'OFCE pour l'année 2024 a dit 0,5 et non pas 1%.
Je pense que vous êtes... plus dans la vérité.
0,5 plus qu'1% à la fin de
cette année. Plutôt que 1%. Voilà.
Et ça coûte beaucoup, 0,5, la différence.
On peut quand même espérer que dans les 4 ou 5 ans qui viennent, les facteurs géopolitiques qui plombent complètement l'activité aujourd'hui, résolus.
On peut l'espérer. La difficulté, c'est de faire des budgets fondés sur des espérances.
Et bien Bruno Le Maire vient d'un moment avec des chiffres et des espérances, en l'occurrence. 19h30 sur BFM Business.
BFM Business présente... Good evening business, les experts du soir.
Allez, 19h34, ils sont là jusqu'à 20h, nos experts. Jean-Marc Sylvestre est avec nous, Henri Sterdignac est avec nous et Michel Sapin est avec nous. Alors, on voulait dire un mot de ce qui s'est passé la nuit dernière, soit un petit peu avant 3h du matin, apparemment, la négociation sur l'emploi des seniors qui a capoté au siège du MEDEF. Voilà, on s'est dit au revoir gentiment entre patronat et syndicat. Écoutez, ce que disait ce matin Patrick Martin, auditionné au Sénat, le patron du MEDEF, le dit clairement, il y avait pas d'accord possible pour lui sur le sujet. Écoutez.
Il n'a pas abouti. Pourquoi? Parce que, en particulier, la CFDT FO, avec qui nous avons une bonne relation, je tiens à le dire. On n'est pas du tout dans un pugilat. On, dans la dernière ligne droite, beaucoup insisté pour que soient améliorés ou aménagés les régimes des retraites progressives. Il se trouve que la lettre de cadrage que nous avait imposé le gouvernement interdisait toute dépense supplémentaire. Or, ce dispositif, si on avait donné suite aux demandes donc de ces deux organisations syndicales, ce dispositif aurait généré des surcoûts. Donc, c'était inconcevable. Cette négociation n'aboutira pas.
Voilà. Ça veut dire qu'entre la négociation sur l'assurance chômage et cette séquence de 3 mois et demi sur l'emploi des seniors, 8 mois de discussion pour rien. Pour rien, finalement, pour arriver à aucun résultat. Et on va repartir à zéro avec l'État qui va reprendre la main ou tout du moins redonner une lettre de cadrage sur le sujet. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette séquence, finalement, Henri Sterdignac? Est-ce qu'on a raté encore l'occasion de faire émerger ce vrai sujet de l'emploi des seniors en France, qui est pourtant un vrai sujet?
Il faut quand même rappeler que l'emploi des seniors s'améliore de façon tendancielle en France. En 2013, on avait 47% des 55-64 ans qui travaillaient. Maintenant, on en est à 59%. Donc, il y a quand même eu un progrès assez net, malgré la crise, etc. Les seniors travaillent de plus en plus. Il y a quand même une sorte d'accord pour dire il faut absolument que maintenant, dans les entreprises de plus de 300 salariés, eh ben, on se mette autour de la table et qu'on définisse une stratégie de l'entreprise pour garder le plus longtemps possible les seniors. Donc quand même, on peut dire ça avance. Le fait qu'effectivement, les avantages en matière d'indemnisation du chômage des seniors vont être reculés de 2 ans, ben grosso modo, c'est acquis. Le problème, c'est qu'il faut... Ben le gouvernement veut en faire trop. On ne voit pas très bien ce qu'il va proposer de plus sans mettre en difficulté un certain nombre des seniors qui ont du mal à retrouver un emploi. Et les propositions du MEDEF n'étaient pas acceptables.
C'était
quoi.
Le grand écart entre le MEDEF qui agitait la menace du CDI senior.
Le CDI senior.
Et les syndicats qui voulaient parler retraite progressive. Est-ce qu'il pouvait y avoir un accord sur le sujet, un dénominateur commun, Michel Sapin, finalement, dans cette histoire?
Sur la méthode, je pense que c'est le président du MEDEF qui a raison. C'était une négociation pipée à l'avance et pas pipée par les partenaires sociaux.
C'est pas la première du genre qui est pipée à l'avance.
C'est peut-être pas la première du genre, mais c'est devenu une habitude systématique avec Emmanuel Macron. Si je puis me permettre, là aussi, j'ai connu d'autres périodes où on laissait de la liberté aux partenaires sociaux pour discuter. Je ne sais pas si tout le monde a compris ce que voulait dire lettre de cadrage. Il a dit, Martin, il y a une lettre de cadrage.
Ça s'appelle le revolver sur la tempe, comme disent certains partenaires sociaux.
Parce que le Code du travail dit que sur un certain nombre de sujets qui touchent au Code du travail, les partenaires sociaux doivent obligatoirement, ou plutôt l'État doit obligatoirement demander aux partenaires sociaux de négocier. Mais après, il a pris l'habitude, je sais parce qu'on a écrit des lettres de cadrage, il a pris l'habitude, en particulier de plus en plus là, de mettre tellement de conditions à la négociation que la négociation devient impossible. C'est ce qui s'est passé. Parce que je pense qu'il y avait de la bonne volonté des deux côtés, qui se traduit d'ailleurs souvent dans les entreprises elles-mêmes. Il y a un discours qui est commun. Mais c'était impossible compte tenu des conditions qui avaient été imposées par le gouvernement. Donc il ne faut pas dire c'est incroyable, ces partenaires sociaux qui ne sont même pas capables de négocier. Non. Négocier quand les contraintes de la négociation sont trop importantes, bah c'est juste amuser la galerie. Ils ont été obligés de le faire.
L'État va reprendre la main et va revenir avec une nouvelle feuille de cadrage. C'est comme ça que ça va se terminer.
Non, elle ne va pas revenir avec une feuille de cadrage. Il va revenir avec des décisions.
Oui.
Puisque une fois que la négociation a échoué,
on donne plus sa chance au paritarisme. C'est terminé.
On lui donne de fausses chances parce qu'on est obligé de le faire, le Code du travail, et on le torpille par ailleurs.
D'accord, Jean-Marc.
Non, mais je suis absolument d'accord avec tout ce qui a été dit et notamment ce que Michel Sapin vient d'expliquer. On a en théorie une volonté d'installer une culture du compromis dans ce pays avec du paritarisme, avec des négociations. Et le paritarisme, c'est quand même à la base qui date de l'après-guerre sur laquelle fonctionne notre modèle social normalement. Hein. Et puis il y a des gouvernements, c'est vrai, qui théoriquement devraient être libéraux, en fait sont très dirigistes en la matière pour empêcher le paritarisme de respirer, parce que c'est bien ça, la lettre de cadrage qui empêche de respirer. Alors peut-être que c'est cynique, il y a du cynisme derrière tout ça, c'est que derrière tout ça, il y a un enjeu, il y a quand même une cagnotte. L'État a besoin d'argent. Je m'aperçois que là, il va récupérer...
On est sur 250 et 300 milliards d'euros de prestations sociales dans le cadre
il va sans doute récupérer 500 millions d'économies.
500 millions d'euros d'économies, ça fait rire en rire.
Oui, parce que d'une part, bon, il faut être clair, Macron et le maire et Bruno Le Maire ne sont pas des partisans du paritarisme. Au contraire, je veux dire, Macron a tout fait contre le paritarisme et Bruno Le Maire a dit il faudra un jour étatiser l'UNEDIC. Donc, un, ils ne sont pas du tout dans l'optique paritarisme et d'autre part, bon, bah, les 500 millions dont vous parlez, c'est complètement... c'est rien du tout, hein, l'UNEDIC. Oui, mais regardez, l'UNEDIC est actuellement... excédentaire.
Oui, voilà.
Et le problème, on peut dire, du gouvernement, c'est d'éviter que ces excédents soient redistribués
soit, au patron,
soit aux chômeurs, soit aux patrons. Voilà, c'est tout. Bon,
mais c'est pas le seul
exemple. C'est une histoire de 1 milliard.
C'est pas le seul exemple. On a un débat souterrain et parfois public autour de l'Agirc et l'Arco,
oui.
Qui est de la même nature.
Oui, mais l'Agirc et l'Arco, c'est du paritarisme pur.
C'est du paritarisme pur qui fonctionne très bien.
Et ils ont même une cagnotte. C'est pas une cagnotte.
Mais non.
C'est parce qu'ils voient l'avenir et ils savent que dans l'avenir, ils auront besoin de cette réserve.
Ça fonctionne très bien.
Ah. Et là, il y a. Y a bon, l'UNEDIC, l'AGIRC et l'ARCO fonctionnent très bien. L'UNEDIC est excédentaire aussi.
Il y a consensus ce soir, les masques tombent, le gouvernement veut mettre à terre le paritarisme.
On va le dire autrement, c'est lui le responsable de l'échec de cette négociation.
Vous voulez, moi.
Pour arrêter de tirer dans les pattes de ces pauvres partenaires sociaux qui n'y peuvent pas grand-chose.
Bien, écoutons Stanislas Guérini. Donc, c'est la petite phrase qui a fait beaucoup causer aujourd'hui le ministre de la Fonction publique qui l'a dit ce matin. Ministre de la Fonction et de la Transformation publique, qui dit qu'il faut mettre fin au tabou du licenciement dans la fonction publique. Il faut juste apprendre, il a tempéré ça, à mieux sanctionner les insuffisances professionnelles des fonctionnaires. Voilà comment il a habillé ça ce matin. Écoutez le ministre.
Le statut de la fonction publique, c'est la garantie de l'emploi. Moi, je ne souhaite pas le remettre en cause. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans la fonction publique, quand, par exemple, on supprime un service administratif, les agents publics, on leur confie une autre mission. Pour ainsi dire, il n'y a pas de licenciement économique dans la fonction publique et je ne souhaite pas changer ça. Je pense que c'est statutairement quelque chose qui est très important et qui distingue le public du privé. Mais le statut n'a jamais expliqué, jamais, pas même en 1946 quand il était instauré, qu'on ne pouvait pas avoir de conséquences, qu'on ne pouvait pas licencier quelqu'un qui ne fait pas bien son travail.
Le licenciement pour insuffisance professionnelle existe déjà.
Il y a cet outil-là, il est très mal défini et il est surtout extrêmement peu appliqué.
Alors, comme cet outil existe déjà, je vous demanderai ce que vous en pensez dans un instant. Faut-il effectivement le clarifier ? La première question que je me pose, c'est pourquoi dire ça maintenant ?
Bah, écoutez, où il fait vraiment de la politique et de la provocation,
ou alors
il a rien compris au film, parce que en fait, c'est vrai que ça existe. C'est vrai que le problème principal de la fonction publique, c'est pas le problème du licenciement, c'est surtout le problème de son efficacité.
13 agents licenciés en 2022.
Ce qui m'inquiète d'ailleurs dans ses propos, et j'avais pas retenu que la première fois que je l'ai entendu, c'est qu'il a dit il y a pas de licenciement économique dans la fonction publique.
Non,
c'est
il ne veut pas parler de licenciement économique.
C'est dommage, parce qu'il y a des administrations dont on sait qu'elles ne servent pratiquement à rien aujourd'hui. Donc il faut organiser la mobilité et la...
Non, mais il peut y avoir des ruptures conventionnelles dans la fonction publique maintenant.
Non, je crois que c'est pas le...
Ouais. Ah si. Si un service ne sert à rien, on peut proposer effectivement une rupture conventionnelle aux agents.
Comment mettre le feu finalement à un truc qui...
Michel Sapin,
incroyable.
Ce que je ne comprends pas.
Qui a été également mise du budget.
Je comprends parce que chacun peut faire des erreurs et là c'est une erreur. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit uniquement ce qu'il vient de dire ce matin, qui est une reculade évidemment par rapport. En tous les cas, dans les mots, ce qu'il avait dit, le tabou. Il n'a pas dit qu'il y avait un tabou. Il a dit que c'était dans la fonction publique.
Il dit
que c'était
comme ça
depuis 1945. Bon, bref, le tabou, il était avant 1945, alors si je comprends bien. Donc je ne comprends pas du tout pourquoi cela. Soyons clairs, moi je suis pour une évolution de la fonction publique. Je pense qu'on ne peut pas dire que la fonction publique d'il y a 20 ans doit être la même que celle qu'on va avoir aujourd'hui ou demain. Qu'il y a des nouveaux métiers qu'on ne connaissait pas, en particulier, je ne sais pas quoi, des métiers dans l'informatique, etc., qui deviennent absolument très importants. J'ai connu un ministère qui a su faire des sacrées transformations, y compris en termes de diminution de ses fonctionnaires, qui était le ministère des Finances, et qui a son propre service informatique, qui le fait fonctionner lui-même, et qui ne va pas chercher les conseils de KPMG, de tel ou tel organisme qui est extérieur. Donc, on peut le faire. Simplement, juste une chose. Un fonctionnaire, c'est quoi ? C'est quoi la masse des fonctionnaires ? C'est les profs. Il faut licencier les profs. J'ai cru comprendre qu'il fallait en embaucher de plus. Bon, si un prof fait une erreur, ça, bien sûr, une faute. C'est la police, c'est l'armée. Dans l'armée, il y a des mécanismes, d'ailleurs, de gestion légitime.
On a l'impression que ce qui est dans le viseur, c'est surtout les
collègues. En fait, au bout du compte, on croit qu'il y a des fonctionnaires qui font pas grand-chose avec un crayon dans l'oreille et qui attendent la fin de la journée. Mais on croirait être au 19e. Donc, c'est nourrir des fantasmes inutiles dans un débat qui devrait être de qualité.
Alors, le problème, c'est qu'actuellement, le problème, c'est quand même d'attirer des gens, aussi bien dans les hôpitaux,
70 000
que dans les écoles.
La fonction publique aujourd'hui,
il faut attirer les gens dans les hôpitaux et les écoles. C'est pas en faisant ce genre de discours que on va attirer les gens. Et par ailleurs, le problème des licenciements dans la fonction publique, c'est comme dans toutes les grandes entreprises, on essaye de le faire. Quand il y a des gens vraiment très mauvais qu'on peut effectivement licencier, on les licencie. Quand c'est des cas sociaux, ça arrive aussi, on essaye toujours de gérer ça avec diplomatie, mais c'est pareil, je pense, dans toutes les grandes entreprises.
13 agents de la fonction publique licenciés en 2022 pour insuffisance professionnelle, 222 fonctionnaires révoqués pour faute en 2022. Oui, Jean-Marc, pardon, je prenais ce chiffre.
Oui, non, mais je pense que derrière tout ça, il aurait mieux valu qu'il parle des problèmes de management de la fonction publique, des problèmes d'organisation, de travail. La culture de l'efficacité n'est pas au cœur du fonctionnement de la fonction publique aujourd'hui. Et ça, on l'a perdu beaucoup.
On a perdu, je ne suis pas sûr qu'on l'ait jamais eu, mais en tous les cas, je ne suis pas du tout opposé au discours de l'efficacité.
Encore plus.
Non, mais
encore
je ne suis pas du tout opposé.
L'efficacité et la performance, après, la rémunération qui va avec.
Après, l'efficacité et la performance ne se mesurent pas exactement de la même manière dans un service public que dans une entreprise privée. Enfin, voilà, juste. Ce n'est pas les mêmes critères.
Non, mais pas très facile. Elle peut se mesurer.
Elle peut se mesurer. C'est pas facile de regarder la performance d'un prof, ou la performance d'un flic.
On a le sentiment très facile. Sortie que
d'un médecin et d'une infirmière.
Une infirmière.
Et d'une aide-soignante.
J'ai quand même l'impression, dans la petite sortie, c'est un jour que la catégorie d'agents de la fonction publique est dans le collimateur, ce sont les agents, les employés
des collectivités
locales. Ouais.
Bah oui.
On sent quand même que c'est là, effectivement,
qu'il y a une surpopulation, Une surpopulation.
Bah, c'est la seule partie de la dépense, enfin, des personnes publiques qui ne soit pas déficitaire. Oui. Il n'y a pas de déficit. Étonnant, hein ? Mais non, il n'y a pas de déficit. Les collectivités territoriales n'ont pas de déficit, ça leur est interdit. Il n'y a pas de déficit
courant.
Il faut le savoir.
Il n'y a pas de déficit courant.
Bien.
Pas de déficit.
Est-ce que
juste ce que je dis est exact.
Oui.
Il n'y a pas de déficit.
Parce que
la nation, vous avez zéro pour les collectivités territoriales et vous avez des chiffres considérables pour les régimes sociaux et pour l'État.
Parce que l'État met au pot,
pour les collectivités.
L'État ajuste.
Parce que l'État ajuste, c'est ça que voulait dire Jean-Marc Sylvestre. Bien. Est-ce que cette petite phrase de Stanislas Guérini a été la goutte qui a fait déborder le vase ? Il se trouve qu'en fin de matinée, la CGT a confirmé qu'elle avait déposé des préavis de grève dans la fonction publique. Ça va commencer lundi prochain, 15 avril, et ça va aller jusqu'au 15 septembre. Écoutez, Céline Verzeletti pour la CGT ce midi.
Des préavis de grève qui sont déposés pour toute la fonction publique concernant les trois versants, c'est-à-dire tous les agents de la santé, des collectivités territoriales et de l'État. Donc ça permet aux 5,7 millions d'agents de la fonction publique de pouvoir exercer leur droit de grève, ça c'est une première chose. Et ensuite, ça couvre donc toute cette période pour différentes initiatives, pour différentes mobilisations et pour différentes journées de grève. Et aussi parce que ceux qui vont être mobilisés pour les JO sont tout autant méprisés puisqu'il n'y a pas suffisamment de mesures d'accompagnement pour ceux qui vont travailler tout cet été pour justement que les Jeux Olympiques puissent se passer correctement.
Bon, on peut pas dire que les syndicats avaient prévenu, la CGT mobilisée depuis un certain temps sur ce sujet, Force ouvrière aussi. La CFDT, l'UNSA, disent pour l'instant, il n'est pas question de gâcher la fête. Voilà. Mais la CGT dit qu'il n'y aura pas de trêve olympique.
Ça ne vous a pas échappé qu'il y avait quand même deux cultures différentes dans le syndicalisme français.
Oui, bien sûr.
Il y avait
une
culture de responsabilité et de compromis, et puis une culture de conflit. Et la CGT, je ne suis pas sûr qu'elle sorte gagnante aux prochaines élections professionnelles. Elle en perdra encore. Elle a déjà perdu sa place de premier rang, avec une politique aussi radicale que celle-là, qui met la population et l'opinion publique contre elle. Quoi. C'est juste ce que je comprends. Je comprends pas.
Henri Sterdignac.
Disons que c'est un peu un dévoiement de la notion de annoncer une grève, quoi.
C'est l'arme nucléaire, la grève.
Quand on prend une période si longue, c'est quand même pas du jeu.
15 avril, 15 septembre. Fin des Jeux Paralympiques.
C'est un peu préavis. C'est pas comme ça, normalement, que devraient fonctionner les préavis.
Non, mais ce ne sont que des préavis.
Quoi ?
Ce ne
sont pas des préavis. Le préavis, c'est quand on dit, voilà, effectivement, dans telle entreprise, on est mal. Dans telle entreprise publique, on est mal récompensé dans des efforts qu'on fait pour le JO. Donc, une semaine avant, on fait un préavis. Ça se comprend. Quand c'est sur une si longue période, c'est un peu difficile.
Michel Sapin, est-ce que le gouvernement ne paye pas cette séquence, effectivement, les déclarations
On a tellement habitué dans ce pays
du ministre,
à sortir le carnet de chèques pour calmer un mouvement social.
Deux choses.
Comme les règles de la fonction publique ont changé, et en particulier sur la question de la grève, on est obligé aujourd'hui de déposer un préavis pour pouvoir faire grève. Avant, il n'y aurait pas eu de préavis, et ils seraient tombés en grève d'un seul coup. Donc, juste qu'on sache pourquoi ça fonctionne, c'était justement pour essayer de temporiser et ouvrir une période éventuellement de négociation avant d'avoir la grève. Après, ça c'était une bonne manière de faire. Après, il y a la mauvaise utilisation, et je rejoins les uns et les autres, du préavis. Et au fond, oui, je pense que la CGT ne sortira pas grandie de ce type d'annonce. Après qu'il y ait des grèves pendant la période, pourquoi pas, ça fait partie du droit absolu. Et objectivement, je préfère la manière de faire de la CFDT sur un sujet comme celui-ci. Et Jean-Marc a raison de le dire. J'étais ministre du Travail lorsque la CFDT est passée devant la CGT, ouais. Et non seulement la CFDT est passée devant la CGT, mais au moment où les syndicats dits réformistes sont devenus majoritaires en ouais. France. Donc on ouais. parle beaucoup ouais. de la CGT, qui est une grande organisation syndicale, avec des gens tout à fait respectables et beaucoup de militants, mais c'est pas ça le vrai visage de la, du syndicalisme français.
Mon gentiment, mais je me trompe peut-être, c'est que la CGT est très implantée dans les clubs sportifs en France, dans les associations sportives. Ils ont des jeunes, ils ont des enfants, ils cotisent, etc. Moi, j'ai l'impression que toute cette population-là, elle attend les Jeux Olympiques. Elle attend le spectacle des Jeux Olympiques.
Donc la CGT se tire une balle dans le pied, là, c'est ce que vous êtes en train de nous dire.
Je pense que la CGT va subir une pression de sa base pour pouvoir se calmer un petit peu. Ou changer
son... Il peut y avoir, à cette occasion, des JO, effectivement, un certain nombre de personnes qui ont des raisons légitimes de protester, en particulier les bénévoles à qui on demande de payer le transport et le logement et le repas du soir ont des raisons légitimes. Oui, j'en suis sûr. Et puis, c'est ce qui se dit. C'est la réglementation, c'est ce qui a été décidé. Voilà, lisez l'Humanité ce matin sans vouloir faire de la publicité. Et par ailleurs, il peut y avoir effectivement dans certaines administrations des efforts demandés et mal rémunérés. Mais bon, pour l'ensemble, c'est un peu trop.
Allez, ça commence lundi prochain, en tout cas, ces préavis de grève de la CGT. 3 minutes encore pour vos extra time. Vos coups de gueule, coups de cœur, ce soir, sur 30 secondes, évidemment. C'est la règle impitoyable de cette émission. Henri, tiens, puisque vous aviez la main, est-ce que vous voulez commencer ? 30 secondes, Henri.
30 secondes. Moi, ce qui m'a énervé, c'est M. Éric Ciotti qui a dit on va supprimer les cotisations salariées et ça va permettre d'augmenter les salaires, les plus bas salaires. Alors non, c'est pas possible parce que les cotisations sociales salariées, c'est uniquement maintenant des cotisations retraite. Donc, on peut pas les supprimer parce que ça mettrait les régimes de retraite en difficulté. Et par ailleurs, il est normal que les gens cotisent pour leur retraite et ainsi, la retraite, c'est un droit et non pas une prestation d'assistance.
Et voilà le coup de gueule de ce soir d'Henri Stadignac en 30 secondes. Jean-Marc, est-ce que vous voulez suivre
En 30 secondes, secondes, moi j'étais interpellé par les records que battent l'or sur le marché international. Ça va faire la 9e séance consécutive au cours de laquelle on bat le 9e record historique. Hein, avec l'once d'or à 2300 dollars, un lingot à 70 000 euros, qui vaut à peu près le même prix que le bitcoin d'ailleurs.
C'est vrai.
Il y a une indexation. Alors que la situation, bien sûr géopolitique est inquiétante, mais que la situation économique, elle n'est pas très inquiétante. La situation de la bourse, ce n'est pas inquiétant. Alors, qu'est-ce qui fait ? Quelle est la raison ? La raison, c'est la Chine. La Chine qui est inquiète, et les Chinois qui sont inquiètes, et qui se mettent à emmagasiner de l'or, à acheter de l'or, mais la Banque centrale de Chine aussi, elle en a acheté pour 200 tonnes l'année dernière.
Pour réduire la dépendance au dollar, évidemment.
Oui, mais non, mais parce que... Ils ont peur.
Michel Sapin, votre coup de gueule ou coup de cœur, je ne sais pas, sur 30 secondes.
Alors, j'ai pas compris si c'était un coup de gueule ou un coup de cœur de la part de Jean-Marc.
Ah non, il est extasié, c'est un coup de cœur.
Mais moi, j'aurais voulu un coup de cœur, parce que j'aime bien les coups de cœur, mais je suis obligé de pousser un coup de gueule.
Allez-y.
Je reviens au début de cette émission. Je lis, dans des journaux bien informés, que Emmanuel Macron a poussé un coup de gueule contre son ministre des Finances, qui aurait, paraît-il, tout d'un coup découvert qu'il y avait un déficit, comme si Emmanuel Macron ne s'en était pas rendu compte. Et donc, je reviens à la question que vous posiez. Est-ce que le ministre des Finances, c'est lui qui va ordonner la grande politique de la France dans un système comme celui-ci ? Donc le premier responsable, c'est Macron. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas poussé un coup de gueule contre lui-même ?
Il ne sera donc qu'un directeur financier, Emmanuel Macron, c'est ça que vous nous dites.
Nous sommes d'accord.
Voilà le coup de gueule ce soir de Michel Sapin. 19h55, c'est terminé. Merci messieurs, merci beaucoup d'être venus ce soir sur le plateau de BFM Business. Jean-Marc Sylvestre, Michel Sapin et Henri Stadignac, à très vite avec plaisir pour de nouvelles aventures. 19h55, on se retrouve demain à la même heure dans un instant Tech&Co avec François Sorel qui recevra notamment Erwan Morteau, le DG France d'Intel. Et nous, on se retrouve demain à 18h. Bonne soirée.
Good evening business. Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie.